s'est menti autant de fois que l'on se disait tout cela. Tous les matins, c'est les midis.
Tranche de vie. Petit voyage à travers nos existences.
C'est ridicule, mais c'est comme ça. Si l'on recule, on voit tout ça. On voit s'éteindre dans le ciel les étoiles et les arcs-en-ciel.
On verra bien, tu me disais.
Auditeurs de Tranche de vie, dans les locaux de Périgueux Habitat, du relais de Périgueux Habitat, dans le quartier de Coulounier-Chamier, le quartier de Jacqueline Auriol, où se concentre un assez grand nombre d'habitats collectifs qui sont gérés par Périgueux Habitat, le principal bailleur. Je vais à la rencontre aujourd'hui d'une personne qui exerce un rôle original. Il s'agit d'Émilie Laurent Garcia, qui est agent de développement social urbain de Périgueux Habitat pour ce quartier. Émilie, bonjour, merci de parler pour nous de votre travail. Comment définiriez-vous votre travail d'agent de développement social urbain ?
Le travail d'agent de développement social urbain consiste principalement à être auprès des locataires, de manière à la fois collective et individuelle. Donc je tiens des permanences tous les matins à Chamier, de 8h à midi, dans le but de pouvoir recevoir les locataires, écouter un petit peu les différentes difficultés qu'ils peuvent rencontrer, ou tout simplement passer un petit moment ensemble pour recréer du lien pour les personnes les plus isolées. Je porte également des projets à la demande des locataires et voilà, des projets collectifs qui pourraient être issus de demandes de locataires ou de Périgueux Habitat dans le but de recréer du lien social et du bien vivre ensemble.
Donc vous êtes une sorte de trait d'union entre les locataires et la structure Périgueux Habitat du bailleur social qu'est Périgueux Habitat. C'est-à-dire que vous n'avez aucun rôle administratif. Vous êtes à l'écoute des locataires et vous mettez en place un certain nombre de projets qui sont destinés à améliorer leur vie quotidienne, par exemple.
Tout à fait. J'ai aussi un rôle de médiatrice dans les conflits de voisinage où entrent en effet l'office et les locataires quand ils ont des difficultés à faire peut-être des démarches seuls. Donc je leur rappelle bien la présence des gardiens à leur contact pour tout ce qui est problème technique, ou je les oriente vers les différents services de Périgueux Habitat.
Alors là, vous avez évoqué quand même un certain nombre de choses très importantes, mais avant de passer au détail de vos actions, est-ce que vous pouvez nous dire, vous êtes jeune, comment vous en êtes arrivé, quelle a été votre formation pour devenir agent de développement social urbain ?
Alors je suis de formation conseillère en économie sociale et familiale, un diplôme de travailleur social, que j'ai effectué en alternance pendant 3 ans. Et suite à ça, donc ça c'était il y a 4 ans, suite à ça j'ai cumulé les expériences en centre social, en association d'insertion, dans Acassiopéa, association pour personnes âgées, et dernièrement à la CAF, juste avant d'arriver à Périgueux Habitat. Donc toutes ces expériences m'ont permis de voir différents volets du métier de travailleur social et notamment de conseillère en économie sociale et familiale, et qui m'ont permis de pouvoir postuler sur la nouvelle mission de Périgueux Habitat.
Alors vous dites nouvelle mission parce que ça c'était quelque chose qui n'existait pas auparavant ?
Non, tout à fait. Le poste a été créé. C'est tout nouveau pour Périgueux Habitat d'avoir même un travailleur social, hein, avoir un agent au profil travailleur social au sein de leurs salariés. Donc tout a eu besoin d'être créé en fait sur ce poste. Donc on avait une ligne directive et puis après on a essayé un petit peu d'ajuster au fur et à mesure des 6 premiers mois de la mission.
Est-ce que vous considérez ça comme un avantage, puisque là, bon, hein, vous avez pas des ornières de la routine d'un ou de plusieurs prédécesseurs, donc vous avez des possibilités de proposition, de création, ou bien est-ce que vous êtes vraiment encadré dans votre action ?
Alors, j'ai envie de dire un petit peu des deux. Bien sûr, il y a un cadre. Après, on m'a laissé quand même beaucoup de liberté sur ce poste. C'est ce qui a été le plus intéressant, en effet, hein, de pouvoir créer, de pouvoir proposer des outils de travail, différentes méthodes, et essayer de répondre au mieux aux attentes de l'Office.
Donc, au départ, vous aviez une vocation qui s'est confirmée progressivement de travailleuse sociale. C'est bien ça ?
Oui, alors... au tout début, en sortant du lycée, non, c'était pas quelque chose d'évident. Après, très rapidement, j'ai bien compris que j'avais besoin de travailler auprès de personnes, hein, d'être auprès des gens, dans des relations humaines, et de pouvoir leur apporter un soutien, que ça soit administratif ou après plus sur de l'animation auprès des personnes qui peuvent être en difficulté, à la fois sociale ou isolées.
Oui, isolées par les circonstances de la vie, oui, ou par leur âge. Mais alors ça veut dire quand même que vous avez une vocation d'altruiste, hein. Vous voulez être au service des gens.
Oui, j'ai voulu être au service des gens. Après, je pense que voilà, dans la famille, on a un petit peu cette fibre-là. Plusieurs personnes... De ma famille travaille auprès de personnes, d'un public ciblé, alors notamment les enfants, mais voilà, on a cette fibre-là, je pense.
Ah, d'accord, là, ça c'est important parce que vous avez été un petit peu orienté par ça, par vos antécédents familiaux. Bon, maintenant, est-ce que vous pouvez nous dire, alors au quotidien, vous avez évoqué les gardiens, l'existence des gardiens, vous avez évoqué l'existence des habitants qui viennent vous demander conseil. Pour telle ou telle chose, ou j'imagine aussi qu'ils viennent de temps en temps se plaindre parce que ça ne va pas avec leurs voisins, puisque vous avez évoqué votre rôle de médiatrice. Tout ça fait quand même énormément de choses. Vous avez un travail très diversifié. Comment vous vous organisez? Comment ça se passe pour cette journée? Est-ce que vous êtes obligé de vous déplacer sur le terrain, d'aller à la rencontre des gens? Et puis, pour confirmer tout ça, je vais vous demander de nous donner quelques... aperçu quelques chiffres sur l'importance du quartier, dont je rappelle que c'est un quartier qui a été défini comme quartier prioritaire dans le cadre de la mise en place de la politique de la ville, de ce quartier de Jacqueline Auriol à Chamiers.
Alors oui, en effet, mes journées sont chargées, hein, puisque j'interviens aussi sur d'autres quartiers, donc les matins me sont réservés pour Chamiers. J'ai pas vraiment de matinée ou de journée type, puisque je fais aussi en fonction de la demande. J'essaie de gérer un petit peu par ordre de priorité et éventuellement d'urgence. Depuis le mois d'avril que je suis arrivée, j'ai rencontré sur Chamiers, en tout cas, pas loin de 90-95 personnes qui ont été soit en contact direct avec les permanences, soit quand je me suis un petit peu promenée dans le quartier pour aller à la rencontre des locataires, puisque je ne peux pas simplement attendre dans mon bureau que les gens viennent, donc je me déplace également.
Alors ça veut dire que les gens commencent à vous connaître dans le quartier ? Est-ce que ils vous interpellent ? Est-ce qu'ils vous disent bonjour ?
Oui, je commence à être reconnue. Je commence à être reconnue et c'est là où le travail devient de plus en plus intéressant, puisque le bouche à oreille fonctionne beaucoup, hein, quand c'est positif comme quand c'est négatif. Donc voilà, quand les gens m'interpellent, me disent bonjour Émilie, voilà, déjà ça fait plaisir, ça veut dire que j'ai été identifiée, que le contact s'est bien passé, que voilà, il y a une relation de confiance qui s'installe, qui est très importante.
Bon, je crois qu'effectivement, comme vous le dites, c'est fondamental pour un métier comme le vôtre. Alors, vous avez dit que vous interveniez dans d'autres quartiers. Ça veut dire que le matin, si vous êtes à Coulounieix-Chamiers, l'après-midi, vous pouvez être dans d'autres quartiers qui sont aussi des quartiers prioritaires.
Oui.
Du Grand Périgueux, vous pouvez nous dire quelques mots là-dessus ?
Oui, tout à fait. Donc, c'est le quartier Boucle de Lille, donc Gourde-l'Arche et Batoulon. Donc là, j'y suis tous les après-midi. Alors, j'ai réparti mes après-midi, pareil, entre le Gourde-l'Arche et le Batoulon pour essayer d'être toujours au cœur des locataires. voilà, c'est vrai qu'après, j'ai besoin d'être présente sur Chamy un après-midi, bien entendu, je peux échanger mes demi-journées. Rien n'est fixe, hein, il faut être aussi souple dans ce métier-là et pouvoir s'adapter en fonction de la demande. Surtout, c'est important.
Capacité d'initiative. Ouais. Alors, avec le recul que vous avez déjà, est-ce que vous apercevez il y a des différences entre les quartiers dans lesquels vous intervenez? Comment se situe le quartier Jacqueline Auriol par rapport aux autres quartiers où vous intervenez?
Des différences, sûrement. Après, il y a aussi beaucoup de points communs. Hein. On est sur de l'habitat collectif, donc on peut rencontrer quand même des personnes qui ont du mal à vivre ensemble, à vivre en tout cas de manière collective en permanence. Ils ont besoin de se retrouver seuls à certains moments, et ça, c'est le point commun que j'ai pu constater sur les trois quartiers.
De se retrouver seul, vous voulez dire d'être au calme ou bien
Oui, d'être au calme, tout à fait.
Et alors ça, c'est antinomique avec le principe de l'habitat collectif.
Tout à fait. Donc on essaie de trouver des moyens pour les soulager. Donc tout simplement, des fois, ça peut être de les inciter à participer peut-être à une sortie organisée par l'amicale des locataires, par le centre social. Alors certes, ça va être sur de l'organisation collective, mais les journées souvent se déroulent de manière individuelle. Hein. Il y a du temps libre et c'est vrai qu'ils ont besoin de sortir un petit peu de leur quotidien. Donc il suffit de pas grand-chose des fois pour que les gens se sentent un peu mieux.
Mais aussi bien dans le quartier de la Boucle de Lille qu'à Coulounieix-Chamiers, que je connais plus particulièrement, il y a des structures sociales qui sont faites pour justement aider les habitants à sortir de leur isolement et à participer à des activités collectives ou à des activités de création individuelle. Mmh. Et est-ce que ces ressources-là sont suffisamment connues des habitants?
Alors, elles sont connues. Tous n'ont pas envie de participer ou d'être présents au sein des différents centres sociaux, notamment, puisqu'on a la chance d'en avoir deux, que ce soit à Chamiers et un au Gourde-l'Arche, au sein même des quartiers. Donc leur place est reconnue et très importante. Après, tous les habitants n'y vont pas forcément. Pour plein de raisons, hein, mais ils n'ont pas toujours envie non plus de se retrouver encore avec leurs voisins. Ou, voilà, ils ont besoin d'avoir des références extérieures au quartier aussi.
Alors, quand ces gens-là s'adressent à ces structures sociales, est-ce que la question que je vais vous poser, c'est vous avez une espèce de rôle aussi d'orientation. Les gens qui viennent vous dire, voilà, j'ai un problème, mon voisin fait du bruit, ou bien je suis dans le dénuement le plus complet parce qu'il m'est arrivé ceci et cela. C'est vous qui les orientez vers les structures qui sont les plus à même de les aider, ou vers les centres sociaux s'ils sont à la recherche d'une formation en français, par exemple, ou d'une formation d'une formation en informatique?
Oui, tout à fait. C'est vrai qu'il a fallu aussi créer un petit réseau de partenaires. Alors, je connais très bien le territoire, donc c'est vrai que c'est quelque chose qui s'est fait assez facilement. Mais il est indispensable de travailler avec les différentes structures, que ce soit donc les centres sociaux, les centres médico-sociaux du Conseil général, les différentes associations du territoire, pour pouvoir orienter au mieux les locataires, tout à fait.
C'est vrai que j'avais oublié de mentionner les centres médico-sociaux qui ont un rôle fondamental aussi, puisqu'il y a aussi des gens qui viennent vous voir parce qu'ils sont à la recherche de soins ou bien d'un soutien social relevant des centres médico-sociaux. Est-ce que déjà avec la connaissance que vous avez du quartier et le recul que vous avez, vous êtes en mesure de proposer une espèce de typologie des habitants du quartier?
Alors, pas forcément. On sait que dans le quartier, on a la présence de 43 cultures différentes, ce qui montre quand même un paysage très diversifié et très riche, parce qu'il faut aussi se rendre compte de cette richesse où chacun peut apporter à son voisin des choses différentes et des visions. La vision des choses aussi peut être différente en fonction des cultures. Et c'est là où des fois on peut avoir une incompréhension, mais il faut prendre le temps de s'expliquer et d'échanger pour pouvoir mieux se comprendre.
Oui, ça c'est un aspect très délicat et très important de votre activité, certainement. Quand je parlais de typologie, je voulais dire aussi en matière d'ancienneté d'occupation dans le quartier. Puisque je crois qu'il est notoire qu'il y a dans ce quartier de Jacqueline Auriol des gens qui habitent là depuis des dizaines d'années, et puis d'autres qui vont et viennent, qui passent quelques mois ou quelques années, puis qui s'en vont, qui sont remplacés par d'autres, etc. Mmh. Comment ça se passe ?
Alors oui, en effet, on a des personnes, des locataires qui sont là depuis très 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 longtemps, des dizaines d'années, qui ont vu évoluer le quartier, qui ont vu des changements apparaître, avec en effet ce... J'allais dire ce turnover, c'est pas le bon terme, mais voilà, des locataires qui restent pas forcément très longtemps. Donc c'est vrai que le quartier a évolué dans ce sens-là où il y a peut-être une dizaine d'années, on était sur des locataires qui étaient présents depuis assez longtemps. Ces personnes-là sont parties et on a des locataires, les plus anciens deviennent un petit peu minoritaires par rapport au changement qu'on peut avoir d'entrée dans les logements. Après, on peut être en effet sur des choses où les locataires disent que bon, c'était mieux avant, mais je pense que c'est dans tous les quartiers qu'on peut l'entendre. Pour être présente au quotidien dans le quartier, la journée, tout se passe bien, ça reste relativement calme, on a quand même beaucoup d'espaces verts, les gens peuvent sortir des appartements sans avoir besoin d'aller au parc de la ville.
Ça, c'est une des caractéristiques intéressantes de ce quartier de Chamiers, que la présence de ces espaces verts quand même étendus où les jeunes peuvent courir, s'ébattre, etc. À côté de cette opposition, de cette cohabitation de gens qui sont là depuis très longtemps et de gens qui séjournent ou qui ont séjourné depuis peu de temps dans le quartier, est-ce qu'il y a aussi des groupes de population, quelle que soit leur origine, qui se caractérisent par un profil particulier? Je pense en particulier aux familles monoparentales.
Oui, alors on constate quand même, on constate en effet on a de plus en plus de familles monoparentales, aussi bien des mamans seules que des papas seuls. C'est vrai qu'après on a lâché.
Aussi bien ou une majorité de mamans seules ou...
Une majorité de mamans seules. Après, on constate aussi l'évolution on a de plus en plus de papas qui sont seuls. Après, on a la chance dans le quartier d'avoir une crèche, les écoles. Donc le centre social qui propose des activités pour les jeunes, pour les parents, pour les soutenir dans leur fonction de parents. On a un maillage assez important pour essayer de faire cohabiter un petit peu toutes les familles ensemble, que ce soit des familles en effet nombreuses, des familles monoparentales, des personnes un peu plus âgées. Voilà, on a un public très varié dans ce quartier et on essaie de répondre au mieux avec les partenaires à cette cohabitation.
Alors, une dernière catégorie que je voudrais évoquer, c'est celle des jeunes, pas des petits-enfants qui vont à la crèche ou à l'école primaire, mais des jeunes adolescents, on va dire entre 15 et 18 ans ou 20 ans. Est-ce que cette catégorie de la population, là, pose problème par son comportement? Est-ce que vous avez est-ce que le quartier a une physionomie particulière par rapport aux autres quartiers que vous fréquentez pour votre travail ?
Alors, une typologie différente, non, parce qu'on a des jeunes dans les trois quartiers. De cette tranche d'âge-là, 15-18 ans, on en a dans les trois quartiers. On en a bien sûr donc à Chamiers. Moi, je peux pas dire que cette tranche d'âge-là crée plus de soucis que d'autres.
En tout cas, à vous, c'est une tranche d'âge qui vous cause pas de soucis particuliers.
Non.
C'est-à-dire, vous n'êtes pas,
moi, je suis pas
agressé, interpellé.
Non, j'ai jamais eu aucun souci en 6 mois, mais envers aucune population, moi, j'ai jamais eu de problème. C'est vrai que que ce soit les jeunes, les moins jeunes, on m'a toujours respectée jusqu'à présent. Donc je ne peux pas témoigner d'une violence ou de difficultés rencontrées. Après, on va pas se le cacher, il se passe des choses, hein. Comme dans tout quartier, on rencontre des difficultés avec des groupes de jeunes ou de moins jeunes aussi. Hein. Jeunes, ça dépend quelle tranche d'âge on prend, mais on a aussi des jeunes adultes qui peuvent rencontrer des difficultés dans leur vie au quotidien et qui se répercutent un petit peu dans le quartier. Après, c'est vrai que moi, je n'interviens pas trop sur cette population-là. On a l'association Chemin qui peut prendre le relais.
Bien sûr. On a cité le Centre social Saint-Exupéry, mais il y a cette association de prévention, d'encadrement de la jeunesse qui s'appelle Le Chemin. Maintenant, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu ce que vous faites en dehors de votre travail d'agent de développement social urbain ?
Oui, bien sûr. Alors, j'ai des...
Quelles sont vos aspirations ? Quelles sont vos distractions ? Quelles sont vos passions ?
Alors, mes aspirations professionnelles, moi, le métier que je fais me plaît, donc je n'ai pas du tout l'intention d'en changer dans l'immédiat. Après, je sais que dans ce domaine-là, notamment le social, en milieu de carrière, on peut se poser la question de savoir si on va continuer sur ce terrain-là ou si on va évoluer sur la formation pour essayer d'avoir davantage de bagages, pour évoluer en termes de fonction. Moi, je partirais sûrement plus sur quelque chose comme ça. Hein. Dans 10-15 ans, peut-être que je serai à la demande d'une formation complémentaire pour pouvoir peut-être être un jour responsable de service, sur des choses comme ça.
Alors là, vous avez prononcé un mot important qui est celui de formation. Est-ce que vous avez, dans le cadre où vous travaillez, vous avez des possibilités d'améliorer votre bagage ou vos connaissances, vos pratiques ?
Oui, tout à fait. Il y a un plan de formation qui est décidé de manière annuelle. Donc, arrivant depuis peu sur Apéry Habitat, je vais également faire partie de ce plan de formation. Donc, on propose des choses pour évoluer, pour apprendre. Moi, je suis en demande d'apprendre beaucoup de choses puisque je pars du principe qu'une formation initiale ne suffit pas.
Là, on s'est écarté de vos autres passions, mais attendez, je vais vous poser une dernière question qui me taraude depuis tout à l'heure. Vous vivez dans un quartier qui est considéré par la rumeur publique comme un quartier difficile, etc. Est-ce que vous avez eu l'expérience, est-ce que vous êtes allé vous promener quelquefois dans le 9-3, est-ce que vous avez l'expérience, ou dans à Vénissieux par exemple, l'expérience des grands quartiers d'habitat collectif à loyer modéré, des périphériques des grandes villes en France ou à l'étranger ?
Alors non, très sincèrement non, j'ai pas, sur ma documentation personnelle, de recherche, de reportage, mais personnellement, m'être déplacée dans des quartiers de la banlieue parisienne ou d'une autre grande ville, non, j'ai jamais eu l'occasion. Après, j'ai bien conscience qu'on n'est pas du tout sur la même échelle de quartier politique de la ville que sur les grandes villes.
Alors, rassurez-moi, vous allez le faire, hein, dès que vous pourrez.
Dès que je pourrai, je le ferai, il n'y a pas de souci. C'est aussi une formation.
Très bien. Alors maintenant, parlez-nous de vos autres passions.
Alors, mes autres passions, je garde une place très importante à la famille. On n'est pas éternel, donc c'est vrai que je passe beaucoup de temps avec ma famille, mes amis. Et après, au-delà de ça, j'ai des passions. Je fais un petit peu de sport, je fais un petit peu de danse. Voilà, il faut pouvoir se vider aussi l'esprit après des journées bien chargées de travail. C'est important de se ressourcer auprès des siens et auprès de passe-temps.
Bien sûr. Et des projets ? On parlait de voyage tout à l'heure pour aller dans le 9-3. Est-ce que vous avez des projets de vous déplacer quelquefois ?
Oui, alors on a commencé donc avec mon mari à voyager un petit peu récemment, puisque bon, ça, c'est un coup hein, quand même. On a déjà fait la Guadeloupe et je pense qu'on va continuer à voyager comme ça dès qu'on le pourra, bien entendu. Voilà.
Vous avez dû voir en Guadeloupe des quartiers pauvres aussi. Hein.
Oui, Très pauvre. Il y a cette partie touristique qui est très jolie, mais si on rentre...
Il n'y a pas que les plages à la Guadeloupe. Non, mais comme, effectivement, il n'y a pas que de belles choses dans tous les pays.
Non, tout à fait. Et c'est important d'en avoir conscience. Et ben voilà, au détour de ce voyage, j'ai quand même fait de très belles rencontres humaines. Voilà. Mais c'est vrai que je pense que j'ai ce côté-là où je vais facilement vers les gens et... Dès que je peux échanger sur la vie qu'on peut avoir respectivement, je trouve ça intéressant.
Alors, cette petite allusion au voyage nous permet de revenir à votre travail. Tout à l'heure, vous avez parlé de la confluence, de la coexistence dans ce quartier de nombreuses cultures. Mmh. Ces cultures, est-ce qu'elles ont l'occasion de se rencontrer, d'échanger, à votre avis, d'après ce que vous voyez?
Alors, je pense qu'il faut essayer de créer des choses, parce que instinctivement, je ne suis pas sûre que toutes les cultures osent aller les unes vers les autres et que les différents habitants le fassent d'eux-mêmes. Mais il faut essayer de trouver des leviers à ça pour pouvoir essayer de leur proposer peut-être des actions qui pourraient leur permettre de se rassembler. De manière générale, depuis quelques années, c'est quand même difficile, hein, mais qu'on parle de cultures différentes ou de cultures identiques, les gens ont du mal à se rassembler et à faire les choses ensemble.
Alors, est-ce que vous avez des projets concernant le quartier, puisque tout, on a évoqué ça, qui sont susceptibles de mobiliser les habitants autour d'un projet commun?
Alors, moi... Voilà, il faut que je reste automatiquement dans mes missions de travail. Et c'est vrai que là, on a pour projet de proposer aux habitants un projet fleurissement, pour améliorer un petit peu le cadre de vie. Donc ça va passer par du fleurissement de talus pas loin du relais de Chamier. Ça va être une expérimentation qu'on pourra éventuellement reproduire sur quelques points stratégiques du quartier. Et également... un projet autour du bien vivre dans son logement, donc faire attention aux économies, aux dépenses énergétiques, pardon, pour faire des économies. Voilà, passer par des gestes simples, leur apprendre les gestes simples du quotidien pour bien vivre dans son logement.
Le projet fleurissement, ça répond à une demande des habitants ou c'est quelque chose que vous leur avez proposé comme ça?
Alors, c'est venu de deux points de vue. Le point de vue donc des habitants qui, pour certains, disent que ça manque un petit peu de fleurs, de couleurs, de gaieté. Et d'autre part, les gardiens qui ont la charge d'entretenir les espaces verts du quartier, qui représentent une grande, grande superficie. On a essayé de croiser ces deux propositions pour essayer d'en faire qu'un. Donc, avec l'aide d'un des gardiens de Chamier, on va proposer aux habitants de créer un petit groupe de travail pour qu'ils soient acteurs de ce projet-là et donc participer au fleurissement du talus qui est devant le relais.
Et au-delà, vous pensez pouvoir étendre ça, peut-être en créant de l'émulation, en proposant un concours de talus fleuris pour l'ensemble du quartier?
Oui, tout à fait. Ça existe, hein, puisque même au niveau de différents offices publics de l'habitat en faisant des recherches, j'ai pu voir. Certains proposent des concours de balcons fleuris, voilà. Donc, pourquoi pas? Dans quelques temps, peut-être qu'on pourra proposer ça si les habitants ont envie, bien entendu, puisque l'idée, c'est pas de porter moi seule le projet, mais c'est que les habitants se l'approprient pour essayer peut-être de créer même des petits groupes comme ça et pouvoir leur permettre de devenir peut-être autonomes aussi et acteurs vraiment de l'embellissement du quartier.
Et de leur cadre de vie. Émilie Laurent Garcia, merci beaucoup. Et vous voyez qu'on a un petit peu quitté le développement social urbain pour y revenir inévitablement à la fin de notre entretien. Merci beaucoup d'avoir parlé aux auditeurs de Radio Libre en Périgord de votre passionnant métier.
Merci beaucoup à vous.
N'attendons pas d'être plus là pour me raconter tout cela.
N'attendons pas d'être plus ici pour me raconter.
C'était Tranche de vie, une émission proposée par Jean-François.
Non, dis non, mais non, mais dis donc.
Non, dis non, mais non, mais dis donc.
Dis-moi le don, ce non dit là.